Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
Les rencontres de l'heure.
C'est des enjeux de société où est-ce que tout le monde peut en discuter.
David Santarossa.
C'est la bienveillance, ça peut devenir aussi de la complaisance.
La rencontre, Moranville, Santarossa.
Mais bon, ça semble être la réalité qui va nous frapper.
Ça a toujours été un peu un bruit qui courait dans les milieux historiques, dans les milieux politiques, là, l'espionnage, ni plus ni moins, qu'aurait livré le gouvernement fédéral envers le mouvement souverainiste au Québec, hein? Et semble-t-il, selon un article du Globe and Mail, du moins qui sort ce matin, ben que c'était pas du tout des chimères ou des rumeurs, cette histoire-là. Il y a bel et bien un fondement historique. Pierre-Éliott Trudeau, ben, espionnait activement puis voulait détruire même le mouvement souverainiste au Québec.
Ouais, exactement. Ben en fait, on dit hein, que c'est le bureau de Pierre-Éliott Trudeau, hein, son chef de cabinet Marc Lalonde, parce qu'évidemment le premier ministre ne veut pas trop se salir les mains, donc il mandate des subalternes pour faire le sale travail en quelque sorte. Hein. Donc oui, ça se serait passé dans les années 70, au lendemain de la crise d'octobre, et on peut comprendre qu'au lendemain de la crise d'octobre, évidemment, ben je veux dire, le FLQ, c'est ni plus ni moins qu'une cellule terroriste. Hein. C'est-à-dire qu'on utilise la violence à des fins politiques. C'est ça la définition du terrorisme. Eh bien, donc on peut comprendre qu'il y ait la GRC qui veuille s'en mêler. Une fois que cela s'est dit, ben on est supposé de s'intéresser aux terroristes seulement, pas à monsieur, madame, tout le monde qui a des allégeances souverainistes. Et c'est ça qu'on a fait, en fait, avec cette cellule-là, cette cellule ultra-secrète de Pierre Trudeau. Là. Donc oui, c'est l'instrumentalisation de la police à des fins politiques qui est absolument épouvantable.
Ouais, et puis ce qui est drôle, c'est que ça donne raison à des gens comme Jacques Parizeau, qui était reconnu pour être un peu quoi paranoïaque ses bords, mais qui finalement avait complètement raison de l'être. Là.
Oui, vraiment, vraiment. Donc, d'ailleurs, ça, c'est une lecture incontournable, à mon sens, la biographie de Jacques Parizeau par Pierre Duchesne en 3 tomes. C'est vraiment exceptionnel. Donc, on apprend, c'est ça, Jacques Parizeau qui est vraiment paranoïaque, qui s'imagine qu'il y a des micros partout. Donc, par exemple, des fois, il va dire, OK, on va discuter d'un projet aux toilettes, on ouvre les robinets, question d'empêcher que les micros enregistrent notre voix comme il faut. Et dans l'entourage de Jacques Parizeau, on était comme, ben là, est-ce que Jacques Parizeau perd la carte finalement? Et on se rend compte, plusieurs années plus tard, plusieurs scandales plus tard, qu'il avait bel et bien raison. Et je veux revenir un instant, Alexandre, sur la figure de Pierre-Éliott Trudeau. C'est assez intéressant parce que dans le Canada anglais, c'est Monsieur Droits et Libertés. Hein?
Ben oui.
Et à raison, il a quand même fait des choses intéressantes sur le droit des homosexuels, notamment. Mais quand tu regardes la crise d'octobre, la loi des mesures de guerre, quand tu regardes ce qui vient de sortir hier dans le Globe and Mail, tu te dis, ben non, c'est pas Monsieur Droits et Libertés, c'est Monsieur Droits et Libertés quand c'est pas ses adversaires politiques, au final.
Ah, puis il était connu comme ça aussi. Puis plus les années passent, plus on s'en rend compte. Hein? Pierre-Éliott Trudeau, c'était quelqu'un d'impitoyable avec certaines franges de la société, avec certaines personnes. Quelqu'un, là, Monsieur Just Watch Me, comme il avait déjà dit, là, c'est tout un personnage, lui aussi, tout un caractère. Puis c'est encore une fois, David, c'est la preuve, puis c'est fou, je vais le rappeler, que le Canada directement a tellement trouvé le mouvement souverainiste menaçant, qu'il pouvait tellement, puis menaçant dans le sens où il pouvait réussir, là, on aurait pu l'avoir, notre pays, au Québec, jusqu'à ce que le fédéral s'en mêle et décide activement de venir contrer un mouvement politique démocratique avec des moyens qui ne le sont pas du tout, oserais-je dire, Moi, je trouve ça cinglé qu'en 2023, mais là, je comprends que ça fait des années, puis qu'on a une nouvelle génération, puis que la mienne, on était à peine vivant pendant le dernier référendum. Mais excusez-moi, pardon, c'est le genre de nouvelles, c'est le genre de dossier qui devrait faire flipper les gens au Québec de se rendre compte que ben on a déjà voulu avoir un référendum, avoir des élections libres, être capable de décider sur notre propre destin, qu'on a interféré à coup d'espionnage dans nos affaires ici au Québec. Mmh. Je trouve ça odieux, je trouve ça détraqué de la part du fédéral. Puis je m'excuse, mais c'est des événements historiques qui devraient être impardonnables. Malheureusement, ben ça tombe trop souvent dans l'oubli. J'aimerais ça que ce soit autre chose que le Globe and Mail dans le reste du Canada anglais qui rapporte des nouvelles comme ça. J'aimerais ça qu'on en parle ici. Puis sais-tu quoi, David? J'aimerais ça qu'on en parle dans les cours d'histoire au Québec. Qu'on le sache, ce qui s'est passé, qu'on arrête de le cacher comme ça. Là, il y a pas un programme qui devrait occulter ce qui s'est passé. La nuit des longs couteaux, la crise d'octobre, tous les accords du lac Meech, tout ça, là, on dirait qu'on passe par-dessus. Vite, dans nos cours d'histoire au Québec. Là, puis je veux pas critiquer tous les cursus d'histoire, là, mais moi, de ce que je me souviens, là, maudit qu'on a passé quelque chose comme 5 ans à parler des maisons longues puis des wigwams, mais on n'a jamais parlé en long en large de ce qui s'est passé, des trahisons du gouvernement fédéral envers le Québec. Je trouve ça plate parce que si plus de gens étaient au courant de ce qui s'est passé pour vrai dans notre histoire, mais je pense qu'il y en aurait qui auraient plus le feu aux fesses, pardonne mon expression.
T'as sûrement raison, mais puis tu sais, un référendum sur l'avenir d'un pays, sur la fondation d'un pays, je pense qu'on peut s'entendre que c'est pour dire que c'est le vote le plus important possible. Et puis à preuve, ben de mémoire, là, en 1995, c'était 94% des gens qui sont allés voter cette journée-là. C'est du jamais vu, c'est assez exceptionnel, là.
Ouais.
Donc manifestement, c'est un enjeu important démocratique et c'est pas tout le monde qui joue selon les mêmes règles du jeu. Ça nous rappelle d'ailleurs qu'en ce moment, ces jours-ci, le PQ veut rendre public tous les documents par rapport au référendum de 95, donc par rapport au financement. C'est connu, on le sait qu'il y a eu des financements illégaux, on le sait qu'il y a eu des menaces, même dans des entreprises privées. Hein, il y a des entreprises qui ont dit si le oui rentre, ben vous allez perdre votre job, donc assurez-vous de voter non quand vous allez aller voter. Donc ça, c'est de l'intimidation, t'as pas le droit de faire ça. Donc c'est toutes des choses qu'on sait, mais qu'il faut creuser davantage. Comme tu le dis, on a l'impression que ça commence à faire longtemps, 95, les années 70 encore plus, mais c'est hier matin, 1995, faut pas s'imaginer que c'est si loin que ça. Et j'ajouterais, faut pas s'imaginer que s'il y avait un référendum demain matin, que le fédéral agirait différemment. Je veux dire, souvent, le passé est garant de l'avenir, là.
David, c'est des mots les plus sages, honnêtement, que tu fais prononcer par rapport à tout ça. Non, moi, ça m'inquiète. Comme je dis, on dirait qu'on ignore une partie de notre histoire. On veut être fiers, puis on veut en parler de ce qui s'est passé au Québec. Mais c'est parce qu'il y en a des moments qui sont pas juste des échecs. Il y en a qui c'est littéralement des trahisons. Je vais le dire comme ça, c'est des trahisons dans notre histoire, puis on ne les apprend pas assez. Je sais pas par quel type de sensibilité, puis qu'est-ce qu'on veut éviter à nos jeunes ici, mais il faudrait raconter l'histoire telle qu'elle est, parce qu'il y a juste une histoire, hein? Il y a une vérité derrière tout ça, puis il faut la raconter telle qu'elle est. David Santarossa, c'était nos chroniques de l'été, un plaisir vraiment d'avoir passé ce temps avec toi, toutes sortes de belles réflexions, et évidemment, je te souhaite la meilleure des rentrées scolaires aussi, parce que tu es dans ce milieu en ébullition en ce moment au Québec. Assurément qu'on va continuer à parler d'éducation avec toi là, dès la saison d'automne. Merci beaucoup pour tout, David.
Merci pour tout, Alexandre. On se reparle bientôt.
Salut.